السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہر رحمدی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی
Tout Ahmadi ayant prêté le serment d'allégeance aux mains du Messie premier des salam, fait la promesse d'améliorer sa condition spirituelle et morale et de progresser dans sa connaissance et dans sa doctrine. À notre époque, Allah nous a accordé cette faveur qu'est la MTA sur laquelle sont diffusées des émissions de la Jamaat, les Jalsa et les sermons. De surcroît, grâce à la MTA et Internet, des centaines de milliers d'Ahmadis participent dans la Bayra internationale. Ainsi, aucun Ahmadi de naissance ou encore celui qui a embrassé l'Ahmadiyya de son propre chef, n'osera affirmer qu'il ignore ce qu'est le serment d'allégeance. Ainsi, il est nécessaire de connaître les détails concernant le serment d'allégeance et de les avoir en tête après avoir prêté le serment d'allégeance. Si nous étudions ces conditions ayant trait à la réforme morale du serment d'allégeance, nous constaterons que nous pourrions apporter une amélioration extraordinaire en nous-mêmes sur le plan moral, dans nos liens au sein de la société, dans nos transactions commerciales et financières du quotidien, ainsi qu'au sein de notre foyer. Cependant, beaucoup parmi nous sont loin en deçà de ces normes, des normes que le Messie premier, l'Islam, souhaitait que nous respections. À cet égard, le Messie premier, l'Islam, attire notre attention sur ces points dans ses conditions de la Bayra, où il dit notamment qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut éviter tout acte de cruauté et la malhonnêteté, qu'il ne faut pas se laisser s'emporter par ses passions et il ne faut pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit avec sa langue ou avec ses mains ou autrement. Il annonce aussi qu'il faut renoncer complètement à l'orgueil et vivre dans l'humilité, la bonne humeur et d'œuvrer au bien-être de l'humanité. Si nous respectons ces conditions, tout comme je l'ai déclaré, eh bien, nous allons rehausser notre norme morale. Si nous respectons ces conditions, nous allons rehausser notre norme morale. Non seulement allons-nous progresser dans ce domaine, nous allons en outre en atteindre l'apogée. Cependant, si nous effectuons une analyse, nous constaterons qu'un nombre inquiétant parmi nous, en dépit d'avoir accompli la Baïra, néglige ces injonctions. Tant que personnellement nous ne traversons pas ces situations où nous devons sacrifier nos droits, où nous devons nous mettre en difficulté pour faire montre de nobles qualités, eh bien, tant que nous ne passons pas par ces situations à titre personnel, nous annonçons haut et fort que nous devrons certainement exhiber ces hautes qualités et que celui qui ne le fait pas commet une grave injustice. Or, lorsque nous sommes directement impliqués, eh bien, la majorité d'entre nous oublie ses qualités morales. Si nécessaire, l'on a à ce point recours au subterfuge qu'il n'y subsiste plus aucune trace de vérité, voire l'on se rapproche du mensonge. Et pour recouvrir ses droits, d'aucuns ont recours à l'injustice. Parfois, l'on est coupable de forfaiture et l'on présente de faux témoignages afin d'éviter la malhonnêteté. Si on ne le fait pas de ses mains, la majorité nuit à autrui par sa langue afin d'atteindre son objectif. Au lieu de faire montre d'humilité, l'ego prend le dessus. Et souvent, ces personnes font montre un tant soit peu d'arrogance. J'ai constaté que lorsqu'on me présente certains cas de la Qada, du tribunal d'arbitrage de la Jamaat, eh bien, au lieu de démêler la vérité du mensonge, au lieu de réclamer ses droits, on fait montre d'un entêtement qui laisse bouche bée. Au lieu de fonder les commerces sur la vérité, on se soucie plus de ses intérêts personnels. Et de surcroît, les avocats des deux parties adverses, afin de faire valoir leur savoir-faire professionnel et leur supériorité, eh bien, ces avocats ont recours directement aux mensonges. Ces litiges commerciaux, ces litiges conjugaux ou autres se prolongent à cause de ces avocats. Ainsi donc, les avocats Ahmadi et les parties concernées doivent accorder préséance au serment d'allégeance et à la crainte d'Allah l'exalté sur leurs avantages personnels. Les conflits prennent naissance lorsque se manifestent des récriminations et des plaintes avérées ou pas, légitimes ou illégitimes. Lorsqu'on se fait une mauvaise opinion de l'autre, en pareille circonstance, il incombe aux croyants de faire preuve d'indulgence pour la cause d'Allah le Très-Haut, au lieu de prolonger les conflits et au lieu de s'entêter. Il doit donc présenter le litige à la Jamaat ou à la Qada. En tant que frère, il faudra tenter de dissiper ces malentendus ou ces récriminations, légitimes ou illégitimes, et de faire montre d'amour et d'affection à l'égard de l'autre. Or, si l'ayant droit et si le débiteur sont tous deux des entêtés, le litige ne sera jamais résolu par un juste verdict pris par la Nizam et Jamaat, par la Qada ou par un tribunal quelconque. Après être passé par un tribunal, on fera appel à un autre. Et si le cas est jugé par les cinq membres du comité de la Qada, le débiteur, parfois, lèse les droits de la partie adverse ou il n'accepte pas la décision prise par la Qada. Puis il m'écrit pour m'informer qu'il a été victime d'une grande injustice et me demande de prendre l'affaire entre les mains. Et ses plaintes ne s'arrêtent jamais. En réalité, comme je l'ai expliqué, l'ego et l'entêtement en sont la cause. Ainsi, si nous voulons résoudre les conflits de la meilleure façon possible, il est essentiel de mettre fin à tout entêtement, voire pour résoudre ces conflits, les ayants droit doivent parfois faire des concessions à leurs débiteurs et parfois ils doivent même abandonner une partie de leurs droits. Quel est l'enseignement que préconise Allah à ce sujet? Allah, dans le Saint-Coran, déclare « وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Si un débiteur quelconque est gêné, alors accordez-lui du répit jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Et si vous remettez la dette par charité, ce sera mieux pour vous si seulement vous saviez. Sachez que vous pouvez vous aussi connaître pareille situation contraignante. Qui plus est, Allah l'exalté nous accorde du répit en nombre de situations. Si Allah, celui qui est la source de toute puissance, commençait à nous attraper pour nos moindres manquements, nous n'aurions aucun refuge. Il est, de ce fait, essentiel d'être indulgent et conciliant à l'égard d'autrui. C'est là une directive de principe qu'il faudra toujours avoir en tête dans ses transactions commerciales au quotidien et lorsqu'on fait des emprunts. À maintes reprises, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux croyants de faire montre de compassion et d'indulgence à l'égard d'autrui afin qu'ils reçoivent le même traitement de la part d'Allah l'Exalté. Sinon, n'oublions pas que nous aurons nous aussi des comptes à rendre un jour. Si Allah le Très-Haut nous juge uniquement sur nos droits, il sera difficile de mériter son pardon. Ainsi, afin d'attirer la miséricorde et le pardon d'Allah, nous devons être indulgents et bienveillants à l'égard d'autrui et non être intransigeants et sévères et se soucier uniquement de ses propres droits. Le saint prophète Mohammed a offert la bonne nouvelle de récompense aux créanciers qui sont conciliants envers leurs débiteurs. Ainsi, selon un récit, le saint prophète Mohammed a déclaré: si le créancier accorde du répit à son débiteur passé les échéances de la dette, eh bien, chaque jour de répit que le créancier accordera sera compté comme une aumône de sa part. Le saint prophète Mohammed a aussi déclaré que l'aumône éloigne les malheurs, l'aumône éloigne les difficultés et les calamités. C'est là donc un commerce des plus profitables que de mériter des récompenses en accordant un sursis à son frère. Et par la même occasion, on se prémunit de nombreux malheurs. Ainsi donc, Allah récompense la moindre bonne œuvre. Si nous nous souvenons de ce principe d'or du Saint-Coran et des dires du Saint-Prophète Mohammed, nous pourrons engendrer une société où règne la paix. Les frustrations ne s'accumuleront pas, les rancunes ne dureront pas, et les instances médiatrices ne seront pas en difficulté. Et au lieu de passer leur temps à résoudre ces conflits, elles s'attelleront à des tâches plus constructives. La RADA ne sera pas, elle non plus, en difficulté. Certes, elle a pour vocation de juger les différends, mais si les deux parties adverses sont conciliantes, eh bien, il n'y aura pas de difficultés inutiles et les autres dossiers ne seront pas affectés en raison du temps que prennent parfois certaines affaires. Et les parties adverses qui ont recours à la RADA et aux tribunaux ou qui doivent payer des avocats pourront s'en affranchir. Or, d'aucuns sont si entêtés à vouloir un jugement favorable qu'ils sont prêts à endurer des pertes. Ils sont prêts à tout pour ce faire et parfois, d'aucuns ou certaines parties me demandent de prendre l'affaire entre les mains. Si l'on mettait de côté son entêtement et son ego, je ne perdrais pas mon temps dans ces futilités. Si la réponse que je donne aux parties adverses, après avoir étudié leur dossier, ne leur plaît pas, eh bien, ils persistent sur leur point de vue, affirmant qu'ils ont raison. Ils insistent que le verdict soit rendu en leur faveur et ils ne sont pas prêts à accorder une quelconque concession à leur adversaire. En dépit de mes instructions claires, ils m'écrivent 3 ou 4 mois après avec une impudente effronterie, affirmant qu'ils ont raison et demandant que l'on révise le verdict et que ce verdict soit en leur faveur. Je n'affirme point que les décisions de la RADA sont à 100% justes. Or, elles le sont quand même à 80 ou 85%. Elles sont juste à la lumière des témoignages et à la lumière des preuves qui sont présentées. Si ces décisions sont injustes, il ne faut pas tout de même mettre en doute les intentions. Les médiateurs rendent des verdicts en toute bonne intention. Ainsi, si une partie croit qu'elle doit avoir gain de cause, mais qu'elle se trouve condamnée, elle ne doit pas accuser la Rada ou le juge, comme certains ont l'habitude de le faire. Les juges rendent leur verdict en se basant sur les faits constatés. Si un verdict est ambigu ou si l'autre partie croit qu'il est ainsi, eh bien, suite à sa requête, je demande parfois qu'on me présente le dossier. Or, comme je l'ai dit, la plupart des verdicts sont justes. Des doutes naissent uniquement en raison du mal que l'on pense d'autrui. Il faudra donc éviter de se faire une mauvaise opinion de l'autre. Cette habitude ouvre la voie vers un autre mal. Tout litige présenté à la Rada, qu'il soit d'ordre financier, qu'il soit d'ordre commercial ou familial, eh bien, tous ces litiges ont trait directement ou indirectement à une question d'argent. Dans le cas des conflits conjugaux, il est question du paiement de la dot ou du retour des biens. La plupart des contentieux financiers tournent autour de l'argent. En tout cas, il est question d'argent dans presque tous ces conflits. Cela dit, partout, le principe d'accorder des concessions est applicable partout. Dans les litiges conjugaux et financiers, il y a toujours des demandes d'argent. Dans les conflits conjugaux, à titre d'exemple, il y a la question du paiement de la dot. Celle-ci est certainement une dette que le mari doit payer. Or, souvent, la famille de la jeune femme exige une dot qui dépasse les moyens du jeune homme. D'une part, ce dernier est contraint de payer cette dette qui est la dot, et d'autre part, la famille de la jeune femme est coupable d'excès en imposant une grosse dot afin d'astreindre le jeune homme qui d'ailleurs ne pourra pas débourser cette somme. Non seulement que cela lui est difficile, il n'en a même pas les moyens. Si la Qada diminue le montant de la dot en raison de la situation du jeune homme, eh bien la partie adverse y objecte. Si, quand il est question d'emprunt, la Qada échelonne le remboursement de la dette compte tenu de la situation du débiteur, eh bien, le créancier y objecte. Nous, les Ahmadis, nous présentons aux autres une société où règne la paix. Étant donné que nous y invitons le monde, nous devrions, dans toutes nos relations, tenter d'établir la paix au sein de la société. Comment les compagnons du saint prophète Mohammed se comportaient-ils les uns à l'égard des autres? Le récit suivant nous en offre un aperçu. On raconte qu'un musulman devait de l'argent à Abu Qatada. L'emprunteur se cachait à chaque fois qu'Abu Qatada partait lui réclamer son dû. Un jour, le fils de l'emprunteur l'informa que celui-ci était à la maison. De l'extérieur, Abu Qatada le héla. « Je sais que tu es là, Ce n'est pas la peine de te cacher. Sors et viens me parler. » Le débiteur sortit et Abu Qatada lui demanda la raison pour laquelle il se cachait. L'empereur expliqua : « Ces jours-ci, je suis en grande difficulté. Ma situation financière est désastreuse. Je ne possède rien et j'ai des dépenses à faire sur mes nombreux enfants. » Abu Qatada lui demanda : « Est-ce là la vérité ?» L'autre répliqua : « Je jure par Dieu que telle est ma condition. » Sur ce, Abu Qatada lui pardonna ses dettes. Pareille conduite engendre la bienveillance et l'affection entre les croyants, et ceci favorise la paix au sein de la société. Or, ici, on a aussi décrit la situation du débiteur. Il n'était pas entêté et il n'avait pas englouti toute la somme. Il était conscient et il était embarrassé du fait qu'il ne pouvait pas rembourser cette dette et c'est pour cette raison qu'il se cachait. Mais il n'a pas dit qu'il ne remboursera pas cette dette. Or, aujourd'hui, nous voyons le contraire. D'aucuns contractent des dettes et tentent de prouver de surcroît qu'ils n'ont pas fait d'emprunt. Or, la conduite des deux parties permettra de favoriser la paix. Le créancier ou l'ayant droit doit accorder des facilités. Le débiteur, quant à lui, doit être conscient de ses responsabilités. Il doit être conscient du fait qu'il doit rembourser sa dette et il doit s'en inquiéter. Ainsi donc, ayant fait la baïra aux mains du Messie promis l'Islam, nous devons également être soucieux de tout cela. Que la qada propose ou non des facilités, ou que la qada contraille ou non une personne à rembourser, le créancier doit d'une part faire preuve de douceur, et le débiteur, quant à lui, doit avoir conscience de l'importance du remboursement et doit faire de son mieux en ce sens. Le musulman Maoud, radiallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a relaté une anecdote au sujet de la paresse et de l'effronterie que certains montrent au moment de rembourser leurs dettes. Il raconte qu'une personne avait un contentieux avec son locataire acadien. Le locataire ne souhaitait pas quitter son logement. Le propriétaire du logement n'habitait pas à Acadian. Il servait dans l'armée et venait que quelques jours par an à Acadian. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ajoute qu'il a dit au propriétaire : « Tu sers de l'armée, tu viens à Acadian 15 ou 20 jours par an. Tu peux séjourner pendant cette période dans la maison des invités ou bien au Langar Khana Daru Ziyafat ou bien tu peux loger chez tes amis. Il y a un manque de logement ici à Acadian. Si tu mets ton locataire à la porte pour les quelques jours où tu vas passer ici, cela va le mettre en grande difficulté. » Il lui a ensuite donné un exemple, lui disant que les compagnons avaient même offert leurs terres à des personnes étrangères et toi, tu veux virer ton locataire qui réside ici pendant 11 mois et demi pour les 10 ou 15 jours que tu vas passer ici. Le deuxième calife déclare que mes propos ont eu un grand impact sur lui. Le propriétaire m'a dit : « Vous avez raison. J'ai eu tort de l'importuner, mais vous devriez également demander aux locataires pour quelles raisons ils n'ont pas payé le loyer depuis 8 à 9 mois. » Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il faut qu'ils vident le logement. Hadrat Muslim Maud déclare que j'ai dit au propriétaire : « C'est une raison valable. Tu n'es pas en tort. Le fautif est celui qui a présenté ce litige sans payer le loyer depuis plusieurs mois. Hadhrat Musulmaud déclare, j'éprouvais une sensation étrange car j'essayais d'attendrir le propriétaire. Mais il m'avança un point que je ne pouvais contredire. Si le locataire avait payé son loyer, alors les choses auraient été plus faciles et j'aurais pu prendre la décision que je voulais. Mais le locataire de surcroît n'avait pas payé son loyer et s'était approprié les lieux. Expliquant ce qu'il ressentait, le deuxième calife relate, il y avait un pachtoun qui avait entendu que si l'on fait lire la profession de foi musulmane à quelqu'un, on entrera au paradis. Il attrapa un hindou et lui demanda de réciter la kalima. L'hindou a déclaré que « je suis un hindou, je n'ai aucun intérêt à réciter la profession de foi islamique ». Le pachtoun lui menaça de le tuer avec son épée s'il ne le faisait pas. L'hindou accepta donc de réciter la profession. Le pachtoun lui dit de le faire par lui-même et qu'il ne voulait pas le faire. L'hindou lui retorqua qu'il ne pouvait pas le lire car il ne savait pas ce qu'était la kalima. Lui était musulman. Il pouvait le réciter, mais le pachtoun répondit qu'il ne connaissait pas non plus la kalima. Il a ajouté, ce n'est pas mon jour, sinon je serais entré au paradis en te faisant réciter la kalima. Hadrat Muslim Roud ajoute, j'ai attendri le propriétaire par mes conseils. Et une fois son cœur attendri, il me présenta un point si valide que ma profession de foi ne put m'aider. Si la partie adverse avait payé les loyers, s'il avait rempli ses devoirs, alors j'aurais pu faire lire la profession de foi au propriétaire. Ainsi donc, les croyants doivent montrer un empressement lorsqu'ils sont appelés à honorer leurs devoirs à l'égard des autres. Il y a de nombreux récits de ce genre. Lorsque les contentieux arrivent devant la Rada ou lorsqu'ils sont présentés au calife, il faut à chaque point présenter la vérité. Sinon, cela peut a posteriori embarrasser le calife. Il faudra éviter d'embarrasser le calife. Il y a de nombreux litiges pour lesquels nous constatons que même si nous réussissons à attendrir le cœur des créanciers, le comportement des endettés empêche de faire avancer les choses. Et les personnes endettées se plaignent d'avoir été durement traitées. Je vais présenter les dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les moyens pour établir une belle société et quelles doivent être les composantes de cette belle société parmi les musulmans. Et comment les deux parties doivent accomplir leurs devoirs. Une fois en priant pour les personnes qui font preuve de tendresse lors des litiges, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah fasse preuve de miséricorde à celui qui facilite les choses lorsqu'il fait du commerce et lorsqu'il réclame ce qu'il a prêté aux autres. Ensuite, en annonçant une bonne nouvelle à ceux qui facilitent les choses lors des litiges et le conseillant aux autres, le saint prophète Mohammed Bissassa lui a déclaré « Allah, le Très-Haut, fit entrer au paradis une personne qui facilitait les choses lors de son commerce et également lorsqu'il prêtait et réclamait son argent. Cela le fit entrer au paradis. Ensuite, il est rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Celui qui accorde un délai supplémentaire à une personne endettée, en difficulté ou qui annule sa dette, alors le jour du jugement ou excepté celle de Dieu, il n'y aura pas d'ombre. » Allah l'exalté lui accordera de l'ombre sous son trône. » Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire au sujet du fait de pardonner. Un commerçant avait pour habitude de prêter de l'argent aux autres. Lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à ses employés de lui pardonner, car peut-être par ce moyen, Allah leur pardonnera-t-il également. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajouta qu'en raison de ses actions, Allah l'exalté lui accorda son pardon. Les personnes qui peuvent se le permettre doivent faciliter les choses pour les autres autant que possible. Au lieu de perdre leur temps et leur argent dans des querelles et des disputes et dans les tribunaux. Cependant, l'islam ne met pas simplement l'emphase sur le fait de faciliter les choses dans les affaires de prêt d'argent. L'islam a surtout pour vocation de bâtir une société pacifique, ne laissant aucune place à la haine, et c'est pour cette raison que l'islam attire l'attention de chaque membre de la société vers le fait de remplir leurs devoirs. Ainsi, l'islam encourage donc les gens à assumer leurs obligations. Hadrat Muslim Maud a cité un exemple, et il y en a de nombreux exemples similaires, où l'on constate que les gens retardent l'échéance, bien qu'il n'ait pas de contraintes qui justifient ce retard. La Jamaat ne supporte jamais de telles personnes et jamais la Jamaat ne va les supporter. Si l'on commence à supporter de telles personnes, eh bien, les usurpateurs s'en donneront à cœur joie et le désordre se répandra dans la société au lieu de la paix. Parmi les conditions établies par le Messie premier l'Islam, il y a également la condition de se préserver du désordre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a également prodigué des conseils à ce sujet. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Il est cruel de la part d'une personne riche de délibérément retarder le remboursement de sa dette. Si l'on vous demande de poursuivre une telle personne qui retarde délibérément une échéance, vous devez la poursuivre. » C'est-à-dire que si besoin est, il faut le contraindre à rembourser ses dettes vis-à-vis des autres. Il ne faut pas, dans ces cas, faire preuve de tendresse ou accorder des facilités, car dans ce cas, la personne endettée a les moyens de rembourser ses dettes. Comme je l'ai mentionné, si l'on agit avec indulgence, dans ces cas, les usurpateurs seront enclins à récidiver plus souvent. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il est autorisé de punir les personnes endettées qui repoussent l'échéance de leur emprunt. C'est donc le devoir du système de la Jamaat que de punir de tels usurpateurs s'ils ne coopèrent pas. De ce fait, si certaines personnes sont punies parce qu'elles n'acceptent pas les décisions rendues par la Qada, eh bien ces personnes ne doivent pas se plaindre et dire qu'elles n'ont pas été traitées avec douceur. Le prophète de Dieu a permis à l'administration de la Jamaat de punir de telles personnes. La loi du pays également autorise de punir de telles personnes. Il y a en outre un avertissement sévère de la part du saint prophète Mohammed Pessoa sur lui pour faire peur à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Il déclare que si quelqu'un a emprunté de l'argent avec l'intention de le rendre, alors Dieu lui permettra de rembourser sa dette. Et celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de ne jamais le rendre, Allah le délaissera. Si l'intention est pure, Dieu créera par conséquent des circonstances favorables pour la personne. Ou peut-être qu'il fera naître de la douceur dans le cœur du créancier. Mais si l'intention est mauvaise, Dieu punira une telle personne. En général, le saint prophète Mohammed ne dirigeait pas la prière funéraire d'une personne qui était redevable à quelqu'un et dont la somme qu'il avait laissée derrière ne comblait pas les dettes qu'il devait rembourser. Le saint prophète Mohammed prie aussi pour se protéger de l'endettement, tant et si bien qu'il avait placé à pied d'égalité la mécréance et l'endettement. Selon un récit, un compagnon avait entendu le saint prophète Mohammed dire « Je me réfugie auprès d'Allah contre la mécréance et l'endettement. » Quelqu'un a demandé « Ô prophète de Dieu, est-ce que les mécréants et les endettés seront traités de la même manière ?» Le saint prophète Mohammed a répondu « Oui ». Aïcha a éclairci ce sujet davantage. Elle rapporte que le saint prophète Mohammed lui faisait cette supplication lors de la Salah. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les péchés et l'endettement. Quelqu'un lui a demandé, ô envoyé d'Allah, vous priez beaucoup pour être protégé de l'endettement. Le saint prophète Mohammed a expliqué que l'endetté a tendance à mentir et à ne pas respecter ses promesses. C'est pour cette raison qu'il faudra demander protection contre l'endettement. Ceux qui empruntent de l'argent doivent se préserver dans la mesure du possible des dettes. Et si l'on emprunte de l'argent, il faudra avoir le souci de rendre cette somme. Le respect des droits d'autrui est comme l'emprunt. Il faut essayer au mieux de s'en acquitter. Si après la décision de la Qada, il y a besoin d'annuler un emprunt ou les droits légitimes, il faudra chercher la clémence de la partie adverse. Les créanciers sont les seuls à pouvoir pardonner un emprunt ou à le négocier. Ainsi donc, les membres de la Jamaat doivent accorder une attention particulière à ce sujet. Le premier calife, radhiyallahu anhu, a proposé une solution pour rembourser les emprunts. Beaucoup d'endettés m'écrivent. Ils doivent appliquer cette formule. Le premier calife de la communauté a déclaré que, premièrement, les endettés doivent accomplir l'istighfar à foison. Ils doivent, deuxièmement, éviter des dépenses futiles. Souvent, les gens sont endettés parce qu'ils gaspillent leurs biens de façon extravagante ou ont de grands désirs. Troisièmement, dit le calife, même s'ils ont un centime, ils doivent l'offrir à leurs créanciers. Si vous recevez ne serait-ce qu'une petite somme, après avoir dépensé le strict minimum dont vous avez besoin, s'il vous reste de l'argent, il faudra l'utiliser pour rembourser vos dettes. Il faudra économiser de l'argent et essayer de payer ses dettes en plusieurs versements. Il faudra en tout cas avoir le souci de le rembourser. Il faudra économiser même un peu afin de rembourser ses dettes. Il faudra pour ce faire se mettre en difficulté. Et il faut à tout prix rembourser l'emprunt. Certaines personnes empruntent de l'argent par simple envie et font des dépenses inutiles. Une personne m'a écrit qu'elle possède une voiture, mais qu'elle souhaite en acheter une autre qu'elle préfère. Elle m'a demandé l'autorisation de prendre un crédit bancaire afin de se l'acheter. Si une telle personne commence à prendre un crédit, elle va croupir sous des dettes. Il faudra se protéger de ses désirs futiles. Nombre de personnes, dont des jeunes, ont emprunté de l'argent pour lancer leur business alors qu'ils n'avaient aucune expérience. Étant inexpérimentés, ils ont fait faillite, ils se sont endettés, ont perdu l'argent des autres. Ces gens doivent éviter d'emprunter et les créanciers, quant à eux, doivent aussi prêter de l'argent avec grande précaution pour ne pas faire des reproches et intenter des procès contre ces personnes. Ainsi, s'ils ne font pas attention, ils perdent leur argent et ils perdent aussi l'argent de leurs débiteurs. D'ailleurs, certaines personnes empruntent de l'argent par méchanceté ou avec de mauvaises intentions. Et c'est là qu'ils s'empêtrent dans des procès et c'est là qu'ils sont humiliés. En tout cas, il faut se préserver de pareilles pratiques afin que nous puissions construire une belle société pacifique. Qu'Allah nous permette de développer les caractéristiques d'un véritable croyant et que nous puissions bâtir une société où règne la paix. Qu'Allah nous donne la possibilité de mener une vie embellie de haute qualité morale, conformément aux attentes du Messie premier l'Islam, ainsi qu'aux enseignements du Saint-Coran et aux hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر